Express, le prêt à la consommation de Banque Atlantique pour financer vos besoins ponctuels de trésorerie ou d'équipement vous propose appel sur l'actualité.
Banque Atlantique, grandir ensemble.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Bienvenue, si vous nous rejoignez, l'antenne vous appartient dans 30 minutes. Vos réactions sur la procédure exceptionnelle qui vise l'ancien président de la République démocratique du Congo. Une commission spéciale du Sénat examine en ce moment la levée d'immunité de Joseph Kabila, accusé par les autorités et la justice militaire de complicité avec la rébellion AFC M23 qui contrôle une partie de l'est du pays avec le soutien du Rwanda. Et c'est aujourd'hui que cette commission doit rendre son rapport et c'est sur la base de ce document que les sénateurs décideront ou non de voter la levée de l'immunité de Joseph Kabila. On en parle, vos réactions sont très nombreuses ce matin sur nos réseaux sociaux. J'ai lu des dizaines et des dizaines de commentaires sur le compte WhatsApp de l'émission. Merci de votre confiance. On fait évidemment le maximum pour appeler le plus grand nombre d'entre vous afin que vous puissiez vous exprimer dans une trentaine de minutes. Mais d'abord, ce sont vos questions à la rédaction pour mieux comprendre l'actualité. On va commencer avec Dolina, qui est au standard à Yaoundé, au Cameroun. Bonjour Dolina.
Bonjour.
Bienvenue. Vous avez des questions sur la visite d'État du président sud-africain à Washington?
Oui, Cyril Ramaphosa et Donald Trump doivent se rencontrer aujourd'hui à Washington. Que peut-on attendre de cette rencontre alors que les relations tendue, notamment avec l'affaire des Afrikaners?
Ah oui, c'est peu de le dire. Les relations se sont fortement dégradées entre les États-Unis et l'Afrique du Sud depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. Bonjour Valentin Hugues.
Bonjour Juan, bonjour à tous.
Correspondant de RFI en Afrique du Sud, le tête-à-tête de cet après-midi entre les deux hommes s'annonce tendu. On imagine, Valentin Hugues, que Cyril Ramaphosa joue gros avec cette rencontre.
Ah oui, et cette rencontre est très attendue. Ici, les principales chaînes de télévision sont en édition spéciale toute la journée. C'est un jour important parce que depuis son retour à la Maison-Blanche, le président américain attaque très régulièrement la nation arc-en-ciel. Il surfe sur le mythe d'un génocide blanc, retweet des extraits polémiques de politiques sud-africains. Il a en quelque sorte pris l'Afrique du Sud pour cible. Donc aujourd'hui, c'est un peu le face-à-face. Après plusieurs mois de diplomatie en ligne, d'envoi de délégations, de tentatives de dialogue, Cyril Ramaphosa va enfin pouvoir parler directement à Donald Trump, les yeux dans les yeux. C'est donc aussi un peu l'image de l'Afrique du Sud qui est en jeu, avec effectivement cette affaire des Afrikaners, ces 59 fermiers blancs qui ont été accueillis la semaine dernière aux États-Unis comme réfugiés. La Maison-Blanche les considère persécutés en Afrique du Sud, ce que le gouvernement sud-africain réfute. D'ailleurs, cette théorie ne s'appuie pas sur des faits. Il y a effectivement de nombreuses attaques de fermes, mais ici, le crime est partout. Donc les Afrikaners ne sont pas plus victimes que n'importe quel autre Sud-Africain.
Ouais, finalement, on comprend bien, Valentin Hugues, l'enjeu c'est d'éteindre l'incendie car les tensions diplomatiques vont très loin. Donald Trump menace même de boycotter le G20 en novembre prochain prévu à Johannesburg et pour le coup là ce serait un coup dur pour l'Afrique du Sud.
Ah oui, et puis c'est lié à ce dont on vient de parler. En fait, Donald Trump dit « l'Afrique du Sud se comporte mal, donc je ne viens pas ». Il y a d'abord cette question de la redistribution des terres. En Afrique du Sud, en fait, la minorité blanche détient encore la majorité des terres plus de 30 ans après la fin de l'apartheid. Et l'Afrique du Sud cherche à régler ce problème. Mais pour Donald Trump, dès qu'on parle de redistribution, de corriger les inégalités héritées du passé, lui n'y voit qu'une persécution de la population blanche. Et puis, autre sujet que Donald Trump n'aime pas du tout, c'est la plainte déposée par l'Afrique du Sud contre Israël pour génocide des Palestiniens, une plainte devant la Cour internationale de justice.
Oui, il y a donc cette hostilité de Donald Trump, cette question des Afrikaners, la menace de chaise vide américaine au G20. Si on devait lister ou résumer en quelques mots les grands sujets de la rencontre de cet après-midi.
Alors, d'après le porte-parole de la présidence, Cyril Ramaphosa n'a pas prévu de trop s'étendre sur cette question des Afrikaners. En fait, le porte-parole nous dit « le monde entier sait qu'il n'y a pas de persécution d'une population particulière, il ne faut pas dépenser trop d'énergie là-dessus ». Surtout que beaucoup d'Afrikaners, eux, n'ont aucune envie de quitter le pays. Donc, Cyril Ramaphosa va plutôt mettre l'accent sur les relations économiques. Les droits de douane, le renouvellement de l'AGOA, des accords bilatéraux. Et d'une manière générale, pour résumer l'enjeu de cette rencontre, l'objectif, c'est vraiment de retrouver retrouver une relation amicale entre les deux pays, retrouver de bonnes relations diplomatiques et commerciales.
Et on suivra évidemment cette rencontre, ce tête-à-tête, ce duel à Washington avec notre correspondant sur place, Guillaume Nodin. A-t-on répondu à votre question, Dolina ?
5/5, merci beaucoup.
5/5, eh bien, bonne journée, bon courage. Visiblement, vous êtes dans les embouteillages de Yaoundé. Valentin Hugues, merci d'avoir été avec nous, correspondant de RFI en Afrique du Sud. 10h16 à Paris, 8h16 en temps universel. Vos questions pour mieux comprendre l'actualité, Messi Fidèle, soyez le bienvenu, bonjour.
Bonjour Monsieur Gomez, bonjour à Aurélien de Vernois.
Aurélien de Vernois, vous êtes très très bien bonjour informé, Fidèle. Il se trouve qu'il est à mes côtés. Bonjour Aurélien.
Bonjour Fidèle, bonjour Juan.
Journaliste au service politique de RFI, Messi Fidèle, vous avez des questions sur le scandale des eaux minérales en France.
Exactement Juan. En France, une commission sénatoriale accuse l'État d'avoir délibérément dissimulé le traitement illégal des eaux minérales maîtrisées. Alors à ce propos, je voudrais savoir pourquoi l'État aurait choisi de garder silence sur ces traitements jugés illégaux.
Alors, c'est une bonne question, Aurélien de Vernois. C'est vrai que ce rapport de la commission électorale est accablant aussi bien pour la multinationale Nestlé que pour l'État français. On rappelle quand même, depuis 4-5 ans, Nestlé commercialise ses différentes marques d'eau sous l'appellation eau minérale naturelle. Il se trouve que Nestlé a utilisé des systèmes pour purifier ses eaux, ce qui est complètement interdit pour des eaux minérales naturelles. Pour que les auditeurs comprennent, c'est que Nestlé a continué à nous vendre ses eaux minérales comme étant naturelles. Il y a eu fraude, et d'après la commission sénatoriale, cette fraude, elle a été délibérément dissimulée par l'État français. Sait-on pourquoi ?
Alors, bon, c'est toujours difficile, Ron, de pouvoir répondre sur les motivations profondes de l'exécutif ou des services de l'État, mais l'une des pistes de compréhension, c'est la question économique et sociale. Le groupe Nestlé, qui est mis en cause par le rapport sénatorial, emploie 1 000 000 de personnes sur les sites Perrier dans le Gard, dans le sud de la France, et des centaines d'autres sur les diverses usines de prélèvement et d'embouteillage des sources qu'il exploite partout en France. À l'heure où le chômage repart à la hausse dans le pays et où les emplois industriels sont très fragiles et très stratégiques, la perspective de voir les eaux minérales Nestlé ou d'autres entreprises perdre leur appellation a pu susciter l'inquiétude des pouvoirs publics, sachant qu'au total, 104 sites en France sont potentiellement concernés.
Mais le rapport est très dur, particulièrement envers la présidence de la République, car il ne s'agit pas seulement d'un enjeu commercial, mais aussi de santé publique.
Oui, parce que dans les fraudes qui sont reprochées à Perrier, c'est de dire que Perrier a dû mettre en place des filtres parce qu'il y avait des contaminations par pesticides ou par des bactéries fécales. Donc, les sénateurs y vont globalement sans détour. Selon eux, l'Élysée savait au moins depuis 2022 que Nestlé trichait sur ses rapports depuis des années et que plutôt que de faire appliquer la loi, l'exécutif a préféré changer la législation en faveur de la multinationale. Les conseillers d'Emmanuel Macron ont échangé plusieurs fois avec les dirigeants de Nestlé, dont l'ancien secrétaire général de l'Élysée, Alexis Kohler, qui a quitté son poste voilà quelques semaines. Les services de la présidence auraient même, selon le rapport, servi de facilitateur entre Nestlé et le ministère de l'Industrie, qui a autorité sur le sujet. Le refus d'Alexis Kohler d'être auditionné par la commission d'enquête a évidemment renforcé les soupçons des sénateurs. Ce refus a été validé par la justice au motif de la séparation des pouvoirs. Donc il ne sera pas poursuivi pour ça, Alexis Kohler. Mais en tout cas, les sénateurs ont décidé, chose rare, de rendre public 74 pages de documents internes fournis par l'Élysée, ce qui a été très moyennement apprécié par Emmanuel Macron. Et puis c'est tout sauf un hasard, le rapport d'enquête a été présenté le jour de la tenue du sommet Choose France. L'un des rendez-vous préférés du chef de l'État, où sont annoncés les derniers investissements des grands groupes privés en France. Le message est clair, l'investissement oui, mais pas au détriment des intérêts des Français.
Messi Fidèle, vous avez une dernière question, on vous écoute.
Exactement. Maintenant que les sénateurs disposent d'assez d'éléments sur cette affaire, des poursuites judiciaires pourraient-elles être engagées ?
Aurélien de Vernois.
Alors, techniquement, oui, mais il faut savoir qu'une enquête parlementaire ne peut pas en elle-même déclencher des poursuites judiciaires. En revanche, ces conclusions peuvent donner lieu à une procédure si un délit ou un crime sont soupçonnés. D'ailleurs, la sénatrice écologiste Antoinette Guhl a annoncé qu'elle saisissait la justice pour un possible parjure de la patronne de Nestlé France lors de son audition. Celle-ci avait affirmé à plusieurs reprises que les eaux exploitées étaient pures à la source. Or, l'entreprise a admis qu'elle utilisait donc des systèmes de filtration en raison de contamination.
Et d'autres poursuites pour pourrait avoir lieu.
À la fois contre Nestlé, donc, qui a déjà payé, il faut le rappeler, 2 millions d'euros d'amende pour échapper à un procès, voilà, quelques mois, sur un peu le même sujet, et puis qui est visé depuis le début de l'année par une information judiciaire pour tromperie, mais aussi potentiellement contre des conseillers de l'Élysée, ministres et hauts fonctionnaires en charge de ce dossier, s'il s'avérait que des ententes illégales ont eu lieu.
Voilà, mais si fidèle, a-t-on répondu à vos questions? Êtes-vous satisfait?
5 sur 5, merci beaucoup à vous, Juan.
Et surtout à Aurélien de Vernois qui est venu nous décrypter, nous expliquer le plus simplement possible cette affaire qui fait scandale ici en France.
Et j'avais pas de Perrier dans ma tasse.
Oui, on peut citer Perrier, on peut citer d'autres marques.
Hein.
Le groupe Nestlé, c'est une galaxie de marques.
Il y a Epar,
il y a Contrex, il y a Vittel.
Voilà, et puis il y a aussi tous les concurrents en réalité qui... eux aussi, susceptiblement, vont faire l'objet de contrôles beaucoup plus serrés qu'auparavant.
Eh bien, on suivra ça avec vous, le service politique de RFI, mais aussi le service environnement. Bonne journée à tous les deux. 10h21, ici à Paris, on repasse au standard. Nous avons ce matin des questions sur la situation humanitaire dans la bande de Gaza. Bonjour Ernest.
Bonjour Juan, bonjour à tous.
Soyez le bienvenu, vous êtes en République démocratique du Congo. Quelles sont vos questions?
Ah oui, Benjamin Netanyahu a autorisé l'entrée de quelques camions d'aide humanitaire à Gaza. Alors la question, pourquoi la reprise de cette aide humanitaire est-elle si faible malgré la situation dans l'enclave palestinienne?
Oui, ça faisait deux mois que Israël imposait un blocus humanitaire au territoire palestinien. Israël a annoncé hier l'entrée de 93 camions de l'ONU. La veille, lundi, seuls 9 camions ont été autorisés à entrer dans Gaza. Bonjour Jean-Paul Chagnolot.
Bonjour.
Vous êtes le président d'honneur de l'Institut de Recherche et d'Études Méditerranée Moyen-Orient, professeur émérite des universités. Expliquez-nous pourquoi l'aide n'arrive-t-elle qu'au compte-gouttes alors que la situation humanitaire est catastrophique à Gaza?
Moi, je crois qu'il faut presque prendre le problème à l'envers, c'est-à-dire que depuis le 2 mars, le gouvernement israélien ne veut plus qu'il y ait la moindre entrée de quoi que ce soit, ni nourriture, ni médicaments, ni eau, sachant que toutes les infrastructures à Gaza sont détruites. Donc c'est une stratégie délibérée consistant à faire pression sur l'ensemble de la population et rendre ces conditions de vie absolument impossibles, avec comme objectif ultime, ça a été dit très clairement, de faire en sorte que les Gazaouis quittent Gaza, ce qu'ils ne feront certainement pas parce qu'ils sont attachés à leur terre, c'est leur terre. Mais c'est ça l'idée fondamentale. Comme il y a eu depuis quelque temps, trop tard, mais il y en a eu quand même quelques-unes, des pressions internationales, eh bien, il se croit obligé de faire semblant. Et donc, comme vous l'avez indiqué, 10 camions alors qu'il en faudrait 500, étant entendu que pendant l'Espagne, il y en a eu zéro. Donc, en fait, c'est absolument rien du tout. Comme disent les Nations Unies, c'est une goutte d'eau dans l'océan. Ouais. Et pareil pour les quelques dizaines qui viennent d'arriver hier et aujourd'hui.
Et pendant le cessez-le-feu en début d'année qui a duré quelques semaines, 4000 camions d'aide entraient chaque semaine dans la bande de Gaza. On en est donc encore très très loin. Vous parliez, Jean-Paul Chagnolot, des pressions internationales. Justement, Ernest, vous avez une question sur ce point.
Bien sûr, Juan. La France, le Royaume-Uni et le Canada ont annoncé qu'ils ne resteraient pas les bras croisés. Mais qu'est-ce que cela signifie concrètement?
Alors, qu'est-ce que ça signifie concrètement? On l'a vu hier, Jean-Paul Chagnolot, avec cette annonce de l'Union européenne. Elle souhaite réexaminer son accord d'association avec Israël. Jean-Paul Chagnolot.
Oui, il faut penser dans deux directions. La première, c'est évidemment ne pas rester les bras croisés, ça veut dire agir. Agir, ça veut dire des sanctions. Elles seront essentiellement commerciales, à l'instar de ce que vous avez évoqué, la Grande-Bretagne qui arrête les négociations sur le libre-échange et puis l'éventualité d'une remise en question des accords d'association dont l'article 2 prévoit que ça ne peut se faire que si l'État, en l'occurrence Israël, respecte les droits de l'homme. Ce qui n'est évidemment pas du tout le cas à Gaza, c'est même tout à fait l'inverse. Et le deuxième volet, c'est la volonté politique d'aller quelque part pour tenter de régler les choses, c'est-à-dire passer par la reconnaissance d'un État de Palestine. Il en est question pas simplement pour la France, mais aussi sans doute pour le Canada, pour aussi la Grande-Bretagne. Et il y a pour cela un calendrier assez précis, puisqu'il y a une conférence importante le 14 juin, co-présidée par la France et l'Arabie Saoudite. Donc ce sont ces deux directions qui renvoient à à cette idée qu'on ne va pas rester les bras croisés.
On suivra ça. En tout cas, Israël assure qu'il ne cédera pas aux pressions internationales. Et pendant que l'aide reprend timidement, les bombardements se poursuivent. 19 personnes ont été tuées cette nuit, selon la défense civile de Gaza. Merci infiniment, Jean-Paul Chagnolot, d'avoir été avec nous. Je renvoie nos auditeurs à votre ouvrage publié aux éditions Autrement, l'Atlas du Moyen-Orient. Il nous reste 5 minutes. On a le temps de prendre une dernière question au standard. Bonjour Lamine.
Bonjour Anne, bonjour à tous les auditeurs de la RFI.
Et je vois que le coq derrière vous nous salue, l'ensemble des auditeurs de RFI. Vous avez des questions concernant la Chine.
Oui, la Chine développe depuis des années de nouvelles routes de la soie en Amérique du Sud, et la Colombie est le dernier pays avec qui Pékin a conclu un accord. Mmh.
Alors, vous êtes là, Lamine ?
Attendez, Lamine,
excusez-moi, on est en direct, il y a une coupure. Donc vous nous dites, quelle était votre question ?
La question est pourquoi la Chine rapproche-t-elle autant de l'Amérique latine ? Et est-ce que une manière de concurrencer l'économie américaine dans ce contexte de guerre commerciale entre Pékin et Washington ?
C'est une très bonne question que vous posez. L'Amérique latine est-elle finalement le nouveau champ de bataille entre la Chine et les États-Unis ? Marie-Françoise Renard, bonjour.
Bonjour.
Professeur d'économie émérite à l'université Clermont-Auvergne. Vous êtes spécialiste de la Chine. Les routes de la soie, je le rappelle en quelques mots, c'est ce grand projet chinois qui vise à construire notamment des infrastructures, qu'elles soient maritimes, routières et ferroviaires, pour, on va dire, stimuler les échanges commerciaux. Quand on voit que les deux tiers des pays latino-américains ont déjà adhéré à ce projet, qu'est-ce que ça dit des ambitions, des intentions de la Chine ?
Alors, ça dit beaucoup de choses des intentions de la Chine, même si elle ne se limite pas à l'Amérique latine. Je crois qu'on peut résumer la stratégie chinoise en trois points. D'abord, la recherche de ressources énergétiques et agricoles, dont son économie a grand besoin. Et donc, elle a recherché des partenariats avec des pays riches dans ses produits. Deuxièmement, la diversification des partenaires commerciaux pour limiter les dépendances. Alors, bien sûr, les dépendances commerciales, mais aussi les conséquences de certains risques, comme les conflits, les catastrophes naturelles qui peuvent perturber les chaînes de valeur et donc on a avantage à se diversifier. Et puis troisièmement, bien sûr, des raisons géopolitiques. Alors, la Chine est en concurrence avec les États-Unis, il faut bien comprendre qu'elle ne veut pas être le pays leader du monde, mais elle veut un monde multipolaire qui ne serait pas dominé par la puissance américaine, et pour cela elle a besoin des pays du Sud. Il faut renforcer le multilatéralisme en donnant à ces pays un rôle beaucoup plus important qu'ils n'en ont eu jusqu'à maintenant, notamment dans les institutions internationales. Alors, les États-Unis ont comme champ de terrain de jeu pendant des années eu l'Amérique latine, ils s'en sont un peu retirés, et la Chine a profité de cet espace libéré pour renforcer sa position, bien évidemment, dans des pays qui sont, en plus des avantages que je viens de citer, qui sont proches des États-Unis et dont certains, comme le Mexique par exemple, peuvent servir d'intermédiaire dans le commerce international.
Et la Chine a même dépassé les États-Unis en tant que premier partenaire commercial du Brésil, du Pérou, du Chili, donc la liste s'allonge. On voit bien l'intérêt de la Chine, on le comprend, en vous écoutant Marie-Françoise Renard. Que gagnent les pays latino-américains ?
Alors, les pays latino-américains, ils ont limité leur dépendance aux États-Unis, ce qui est quand même très important pour eux. Ils ont aussi l'intérêt d'une diversification de leurs partenariats commerciaux. Évidemment, on sait que le risque est un endettement important, etc., et que donc il faut beaucoup veiller à la façon dont sont faits les contrats pour que les pays ne soient pas perdants dans ces contrats. Ils bénéficient du fait que la Chine finance des infrastructures qui sont un élément très important, même fondamental, de la croissance économique. Mmh. Et puis globalement, ils participent à la création d'un nouvel ordre international, parce qu'on voit bien que les pays occidentaux, les États-Unis en premier, mais pas seulement, remettent en cause l'ordre qu'ils ont eux-mêmes créé. Donc, il faut constituer un nouvel ordre international, et ça permet aux pays du Sud, avec la Chine de participer plus activement à la création de ce nouvel ordre international.
Merci infiniment. Marie-Françoise Renard, professeure d'économie émérite à l'Université Clermont-Auvergne. Lamine, bonne journée à vous et merci de votre confiance, de l'intérêt que vous portez à cette émission. D'autres questions à la rédaction demain. D'ici là, vous pouvez nous appeler. Le standard reste ouvert. 33 9 693 693 70. Vous nous envoyez également vos questions sur les réseaux sociaux avec un numéro de téléphone en privé, bien évidemment, et l'équipe vous recontacte dans les minutes, peut-être même dans les heures qui suivent. Restez avec nous à suivre la dernière édition d'Afrique Matin et on revient.